Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, notre dernier rendez-vous de la semaine. Ce soir, que reste-t-il du printemps syrien ? Il y a 5 ans, les dictateurs tombaient les uns après les autres. Ben Ali en Tunisie, Moubarak en Égypte, Kadhafi en Libye. Le prochain sur la liste, ce serait Bachar el-Assad en Syrie. Qui pouvait imaginer début 2011 que l'avenir puisse tourner autrement pour le président syrien ? Que 5 ans plus tard, on aurait fini par oublier le caractère pacifique des premières manifestations. Mars 2016, les morts se comptent par dizaines de milliers. Ce n'est plus un, mais plusieurs conflits qui se déroulent et s'entremêlent sur le terrain. Armées syriennes, troupes rebelles, groupes djihadistes, combattants kurdes, miliciens du Hezbollah, attaques aériennes russes, bombardements de la coalition menée par les États-Unis. Une guerre devenue quasi illisible et toujours au pouvoir, Bachar el-Assad. En 5 ans, nous avons consacré de nombreuses émissions à ce conflit, à sa dimension géostratégique, en finissant un peu par perdre de vue la souffrance des Syriens et les raisons qui les ont poussés à descendre dans la rue en mars 2011. Alors que reste-t-il du printemps syrien ? C'est notre sujet du jour. Et pour évoquer ces questions, j'ai le plaisir de recevoir ce soir Majd al-Dik. Bonsoir. Majd al-Dik, vous êtes syrien, réfugié politique. Vous vous trouvez en France depuis fin 2014. Vous étiez un manifestant de la première heure contre le régime de Bachar el-Assad. Vous avez créé d'abord sur place et puis vous continuez à l'animer aujourd'hui une association qui s'appelle Source de Vie, qui est une aide à distance à la population syrienne. On aura l'occasion d'en discuter un petit peu. Et puis vous avez publié ce livre « À l'est de Damas, au bout du monde, témoignage d'un révolutionnaire syrien », ouvrage qui vient d'être édité aux éditions Don Quichotte et pour lequel vous avez été un peu aidé par notre deuxième invité, Nathalie Bontemps. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes traductrice de l'arabe. Vous avez vécu plusieurs années à Damas, en Syrie, donc de 2003 à novembre 2011. Vous avez donc vu la révolution naître et se transformer, commencer à se transformer en conflit armé. C'est donc vous qui avez accompagné Majd al-Dik dans l'écriture de son livre. Notre troisième invité, c'est Ala Kodmani. Bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste, journaliste franco-syrienne. L'essentiel de votre vie s'est passé en exil, enfin si j'ose dire. En tout cas, voilà, loin de la Syrie. Vous avez fondé l'association Souria Ouria, ce qui veut dire Syrie Liberté. C'était en 2011, c'est-à-dire finalement dans les premiers mois.
Au tout début.
Et puis vous avez coordonné et recueilli les contributions d'un Libé spécial, Libération, qui aujourd'hui propose de revenir sur le quotidien des Syriens. Je rappelle d'ailleurs que nous sommes aujourd'hui dans le cadre de cette journée en partenariat avec Libé. Et on va voir qu'il y a un certain nombre de témoignages qui sont extrêmement intéressant pour raconter ou re-raconter ce qu'a été ce printemps syrien. Je précise enfin que vous avez publié aux éditions Actes Sud en 2014 La Syrie promise. Alors Majd al-Dik, c'est à vous que je voudrais poser la première question. Dans le livre donc, que vous publiez À l'est de Damas au bout du monde, vous racontez que chez vous, alors déjà à la maison avec vos parents, vous ne parliez jamais de politique. Que quand vous voyez à la télévision les images de la révolution en Tunisie, c'est quelque chose qui vous laisse un petit peu indifférent. En tout cas, vous ne prenez pas tout à fait la mesure de ce qui se passe. Mais c'est en voyant ce qui se passe quelques jours plus tard en Égypte, sur la place Tahrir, que là vous vous dites, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se dérouler pas très loin de mon pays. Et surtout, vous dites, j'aurais aimé, moi, me trouver place Tahrir avec les manifestants égyptiens. En quoi l'Égypte, ça a été presque peut-être un déclic pour vous qui vous a fait réaliser que vous aviez envie de vous aussi de manifester contre le régime syrien. Alors, je précise que la traduction est assurée par Asma, voilà, qui va nous traduire les propos de Majd al-Dik.
Pour commencer,
qu'on suivait ce qui se passait en Égypte, les manifestations qui se déroulaient en Égypte. Et à cette époque, nous avons également pris conscience au plan de l'information et des médias de l'importance de ce qui se déroulait. C'est à ce moment que nous avons commencé véritablement à suivre les chaînes d'information. Avant, il n'y avait pas véritablement de suivi de ce qui se passait.
Ce que vous dites dans votre livre, Majdal Dik, c'est que vous faites tout de suite la comparaison entre des pays qui se révoltent et puis le vôtre, la Syrie, qui est un pays silencieux parce qu'à l'époque, on a peur de parler, parce que les murs ont des oreilles, c'est ce qu'on dit en Syrie. Est-ce que vous imaginiez que les Syriens puissent eux aussi descendre dans la rue pour manifester ?
On ne pensait pas que ce serait possible que les Syriens puissent descendre manifester dans les rues. On avait au contraire le sentiment que nous étions étouffés, mais nous n'avions pas véritablement le sentiment que nous pourrions nous exprimer ou manifester d'une manière ou d'une autre. On peut dire que ça faisait partie de l'inconscient collectif, que c'était quelque chose qui faisait partie de nous, de notre inconscient collectif, le fait que les murs avaient des oreilles.
Ou que toute
personne qui pourrait prendre la parole, qui oserait exprimer son point de vue, bien serait une personne qui pourrait avoir des problèmes.
Vous, Nathalie Bontemps, à ce moment-là, vous êtes à Damas, je crois que vous enseignez le français à Damas. Est-ce que cette pesanteur et ce silence qui est imposé aux Syriens, vous le ressentiez, vous aussi, comme expatrié, ou bien le fait d'être une occidentale dans ce pays, ça vous mettait un petit peu à l'écart de cette pesanteur ?
Non, je la ressentais bien, parce que je me souviens que j'allais souvent au Liban à une période et je me disais, à chaque fois que je passais la frontière libanaise, le film a été remis en couleur. C'est vraiment l'impression que j'avais de passer d'un pays en noir et blanc à un pays en couleur.
Un pays où l'initiative individuelle, par exemple, était interdite ou en tout cas extrêmement contrainte?
Après, c'était paradoxal parce qu'en Syrie, c'était aussi un... Enfin, moi, je m'y sentais très bien, j'y avais beaucoup d'amis, c'était très facile de se faire des amis, il y avait énormément de richesses au niveau de la possibilité de rencontrer les gens vous présentent des gens, on sent pas que les gens sont étouffés au sens humain, pas du tout, au contraire même, il y a une ambiance qu'on retrouve difficilement ailleurs, et certainement pas au Liban d'ailleurs, mais en même temps, il y a cette chape de plomb qui... c'est difficile à exprimer comment on la ressent.
Ce qui fait que vous pouvez dire que vous avez été un peu surprise quand les premières manifestations ont commencé?
Bah, comme tout le monde, oui. Absolument comme tout le monde. C'est-à-dire, on a vu les images de la Tunisie. Je me souviens, on avait rendez-vous chez une amie pour regarder ça, pour fêter ça. Et puis j'ai une autre amie syrienne qui est arrivée. La première chose qu'elle a dit, c'est « ça ne pourra jamais arriver chez nous ». Et ainsi de suite, comme d'images.
Et pourtant, c'est arrivé à la Côte-Mani. On peut peut-être d'ailleurs revenir sur ce qu'a été le déclic des premières manifestations. Ça fait d'ailleurs l'objet du portrait de la dernière page de ce livre spécial consacré aux Syriens aujourd'hui. C'est le portrait d'un adolescent qui s'appelle Mouawaya Sayasne, je suis désolé pour la prononciation, qui est un de ces adolescents qui avait tagué sur les murs de son école « Ton tour arrive ». Docteur, avec ce groupe d'adolescents, ils vont être emprisonnés, ils vont être torturés, et derrière, il y a une réaction.
Oui, c'est un petit peu, bon, l'étincelle, comme on dit. L'étincelle, là où quand même il y avait des braises qui commençaient à être bien, bien enflammées, mais l'étincelle a été effectivement cet incident, c'est plus qu'un incident, de Dara, où ces jeunes ont tagué sur les murs des slogans hostiles au régime.
Voilà, Dara qui est une ville du sud de la Syrie.
Voilà, du sud de la Syrie, qui avait suivi comme tous les autres. Hein. Il y a eu tout d'un coup, il y a eu un déclic chez les Syriens. Hein. Le jour où Ben Ali est tombé, déjà ça a allumé les lampes dans les têtes des Syriens. Et alors quand Place Tahrir, ça a été, ils brûlaient d'y aller. Et donc cet événement à Dara qui a ces enfants qui ont été rendus à leurs parents avec des traces de torture atroces et des plaies et des cicatrices partout. Et c'est ça qui a provoqué un petit peu la réaction des parents, d'autant plus qu'à ce moment-là, au lieu d'essayer de rattraper les choses, le régime a laissé, notamment c'était le cousin de Bachar al-Assad qui tenait la sécurité à Dara, et bon, Il paraît que sa mère, la mère de Bachar, lui a dit non, mais tu vas quand même pas limoger ton cousin. Donc, voilà, ça a été la révolte de la population, que voilà, c'était des enfants qu'on torturait parce qu'ils avaient fait écrit quelque chose sur les murs.
Et dans l'article qui est consacré donc à un de ces adolescents, vous racontez à la Côte-Manie, c'est un des nombreux auteurs hein, d'ailleurs dont vous avez recueilli justement les écrits pour ce Libé spécial. Il raconte qu'il y a d'abord une première fois les parents qui viennent les chercher parce qu'évidemment ils sont inquiets du sort qui est réservé à leurs enfants et à qui on répond oubliez vos enfants et rentrez chez vous en faire de nouveaux et si vous n'y arrivez pas envoyez-nous vos femmes et que ça va vraiment aussi déclencher une forme d'humiliation et de réaction. Est-ce que vous vous souvenez de cet épisode, Majed Aldik ? Est-ce que ça a contribué à vous convaincre qu'il fallait aller plus loin, en tout cas qu'il fallait peut-être descendre, manifester dans la rue, comme le faisaient les Tunisiens et comme le faisaient les Égyptiens ?
Oui, bien sûr que c'était là l'une des principales motivations à ces manifestations. Et c'était les premières manifestations de ce type que nous voyions en Syrie. Et c'était la première fois qu'on véritablement on sentait une pareille effervescence dans les villes en Syrie. Les villes, auparavant, elles pouvaient être très distinctes les unes des autres. Et on ne pensait pas qu'on pourrait véritablement trouver dans une situation où les villes s'identifieraient les unes aux autres et feraient preuve de cette solidarité les unes envers les autres. C'était la première fois que nous nous sentions véritablement impliqués parce que nous voyions que le sang coulait dans une ville syrienne et que cela, c'est un sentiment qui dépassait le sentiment de peur. En dépit de la peur, nous avons essayé donc de surmonter cette peur et de faire quelque chose.
Et vous racontez dans le livre ce qu'a été la première manifestation à laquelle vous participez, qui est une manifestation donc à Douma. Alors Douma, c'est une ville, une grande ville dans la périphérie, à la périphérie, on va dire, de Damas. Cette manifestation, donc, elle se fait en soutien justement avec ce qui s'est passé à Deraa. C'est le 25 mars 2011. Est-ce que vous avez beaucoup hésité avant d'y aller, ou bien est-ce que ça, vous y êtes allé d'une certaine manière presque sans réfléchir, de manière un peu, on va dire, inconsciente? Parce que ça a très mal tourné ensuite.
En fait, il y avait de la peur pour partie. Parce qu'on avait peur que ce soit seule la vie de Deraa qui en assume, qui en fasse les frais. Mais nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de militants, des dirigeants du Parti Socialiste, par exemple, et également le Croissant Rouge, qui fait une action humanitaire. Et nous avons donc constaté qu'il y avait tous ces gens, et c'est sur cette base que nous avons fait donc organiser ces manifestations qui venaient soutenir la ville de Deraa. Mais à l'époque, on pensait pas que cette première manifestation pourrait être couronnée de succès, loin de là. Mais après, quand on a vu qu'il y avait des divisions de l'armée qui se dirigeaient vers Deraa, on a vraiment eu un sentiment extrêmement profond qu'il fallait absolument faire quelque chose et qu'on ne pouvait pas se taire par rapport à ce qui se passait ou pouvait se passer encore à Deraa.
Il faut dire que l'armée va réagir très vite, hein, dès les premières manifestations, avec une forte répression. Enfin, l'armée et les services de sécurité étaient déjà extrêmement virulents bien avant les premières manifestations. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment, ce printemps syrien à Damas, Nathalie Bontemps ? Est-ce que vous l'avez vu, disons, de vos propres yeux, ou est-ce que là aussi vous étiez peut-être un petit peu à l'écart de ce qui se passait du fait de votre statut un peu à part, puisque vous étiez une expatriée?
J'ai beaucoup suivi, j'ai été très en contact avec les amis. J'ai découvert en fait que beaucoup de mes amis sont devenus activistes. Donc j'ai suivi tout ce qu'ils ont fait. J'ai pas eu moi-même le courage de me rendre sur les lieux des manifestations, même si j'en rêvais, mais j'ai eu trop peur. Et c'est quand même à ce moment-là que s'est construit le début de l'initiative en fait de Shems, de notre association actuelle en France, parce que j'ai suivi ce que faisaient mes amis, surtout des femmes qui se rendaient donc dans les quartiers assiégés. Enfin, c'était pas assiégé encore à l'époque, mais bouclés par les barrages. Elles rendaient des visites en fait aux femmes qui perdaient leur mari, qui perdaient leur fils. Elles faisaient des visites de condoléances et elles prenaient des contacts et elles amenaient des aides, tout le mouvement qui, à cette époque, a démarré très vite comme ça. Donc c'est cette relation-là qui s'est construite à cette époque-là. Et ensuite, quand j'ai été contrainte de sortir du pays à la fin novembre, parce que je suis mariée à un Syrien, c'était pour des raisons aussi de sécurité, et ça s'est poursuivi, en fait, de l'extérieur.
Donc vous êtes restée, finalement, 6 mois du début des déclenchements des manifestations, donc jusqu'à fin novembre. Est-ce que quand vous quittez le pays fin novembre, vous avez l'impression que les révoltes syriennes ont complètement déjà changé de registre et qu'on n'est plus du tout justement dans des manifestations qui, il faut le rappeler, au départ étaient des manifestations pacifiques, mais qu'on est déjà dans une ambiance de guerre civile?
Ah non, on n'est pas du tout dans une ambiance de guerre civile fin novembre. Pas du tout. Effectivement, l'armée a attaqué Hama, il y a déjà le siège de Homs, tout ça. Mais c'est en fait l'automne 2011, c'est encore. C'est les immenses manifs de Homs, c'est Fadwa Suleiman et Abdelbaset Salout ensemble dans les manifestations de Homs. Donc on est encore en pleine effervescence. Pacifiste, il y a encore beaucoup d'espoir, même si la violence est inouïe depuis le début, depuis le premier jour.
À la Côte-Mani.
Oui, moi, ça me rappelle complètement cette période. Enfin, j'étais à Damas, moi, en avril 2011, la dernière fois. Et il y avait une ambiance tout à fait particulière, parce que là, Damas était très, très contrôlé, évidemment. Personne ne pouvait. Et c'était tout se passait en chuchotement. On voyait tout d'un coup, dans un café, deux têtes se rapprocher, se chuchoter, parce que il y avait évidemment des indiques partout et des oreilles qui traînaient partout. Et on voulait vite aller quelque part pour communiquer, pour dire « j'ai entendu telle information, il y a eu telle manifestation, il paraît que dans ce quartier, il y a eu une... » Et c'est vrai qu'il y a eu un réveil que les Tyriens avaient complètement oublié depuis très très longtemps. Et c'était une ambiance très particulière, hein. Je ne suis pas restée longtemps, mais c'était un moment d'enthousiasme, d'effervescence, d'enthousiasme, malgré la très forte violence terrible.
Majdal Dik, qu'est-ce qui domine chez vous à ce moment-là? Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais est-ce que c'est justement l'enthousiasme de se dire, nos manifestations vont avoir raison du régime, ou bien est-ce que ça reste quand même toujours la peur, même si vous avez ce courage qu'évoquait Nathalie Bontemps, d'aller manifester dans les rues alors que l'armée est présente?
En dépit de toutes les difficultés, en dépit de tous les périls qui étaient liés aux manifestations, c'était une initiative à laquelle il fallait absolument se rallier. Avant 2011, on menait une vie normale. Dans les lignes droites bien tracées, il fallait étudier, il fallait se former pour apprendre un métier, faire son service national au sein de l'armée. Et en fait, tout le reste de la vie devait être consacré à la question de comment se nourrir, comment vivre une vie normale jusqu'à la mort. Et c'était la seule opportunité qui nous était offerte, et ce, en dépit de tous les incidents, de tous les sanglants que l'on pouvait constater, c'était la seule opportunité que l'on avait véritablement de prouver que l'on existait. Bien sûr, il y a des moments où on ressent la peur. Et ce, parce qu'il y a des gens qui meurent devant vous, et vous voyez également la réaction des mères et des familles de ces personnes. Mais en même temps, on éprouve ce besoin existentiel de s'exprimer. Sinon, à quoi sert la vie? C'est pour cela qu'il y a eu ces manifestations, que ces manifestations ont été couronnées de succès, qu'il y a eu tout ce travail de mise en réseau, parce qu'en fait, ça nous encourageait les uns les autres à dépasser le mur de la peur. Cela nous encourageait. Et c'est la première fois qu'on a également compris qu'il y avait quelque chose qui s'appelait la solidarité sociale, la solidarité entre nous, que le destin n'était pas un destin individuel, mais collectif.
Et puis,
c'est devenu une bataille existentielle qui s'est imposée à nous parce que l'armée a très vite réagi de manière extrêmement brutale. Il y a eu un couvre-feu qui a été imposé.
On ne pouvait
plus circuler. Et or, il y avait des blessés qui étaient tombés au sol et qui sont morts.
Bien sûr,
ça a entraîné une réaction dans le peuple, une réaction d'opposition. D'abord, on a été choqués.
Traumatisés.
Parce que pendant 40 ans, on nous avait appris à l'école et nos parents nous avaient parlé de ça, du fait que l'armée était là pour défendre le peuple. Et on est choqué de voir que ce n'est pas vrai dans la réalité, et ce parce qu'il y a des tanks, il y a des blindés qui viennent et qui viennent tuer des personnes qui sont du peuple. On peut dire que c'était véritablement une arme à deux tranchants. Soit on se taisait et on restait dans la culture de la peur, ou alors on sortait, mais alors on sortait tous ensemble pour manifester.
Et
je parle ici de personnes modestes qui ne cherchaient qu'à vivre, qui ne pensaient qu'à vivre et assurer sa survie et la survie de ses enfants. Mais le fait que l'armée soit rentrée dans la ville, que l'armée se soit saisie également de tous les services, que les snipers se sont installés en haut des immeubles, de manière très spontanée, même les personnes les plus modestes qui étaient jusque-là obsédées juste par leur survie et la vie de leurs enfants, ont commencé à réfléchir à ces snipers qui se trouvaient en haut des immeubles et qui pouvaient menacer leur maison à tout moment. Et donc les priorités de cette personne modeste ont changé. Il ne s'agissait plus d'assurer la survie tout simplement en assurant son prochain repas, mais il s'agissait d'assurer sa survie également en participant à ces manifestations, en se défendant.
Alaa Konmani, dans ce que vous entendez de ce que raconte Majdaldik, est-ce qu'on peut y voir une forme d'itinéraire finalement assez classique de ce qu'a été l'itinéraire des révolutionnaires syriens en 2011?
Oui, je crois que ce que Majd est en train de raconter est... Bon, c'est une expérience que j'ai entendue de la part de beaucoup de jeunes de sa génération et de toute cette génération de protestation. C'est que tout d'un coup, en fait, ils sont décidés à vivre. Quand j'ai posé à l'un d'entre eux, mais enfin vous risquez de mourir, de toute façon on ne vivait pas. Donc autant risquer de mourir. Et je crois que ça a été fondateur, ce moment, même 5 ans après, malgré tout ce qui s'est passé, malgré toutes les transformations, malgré toute la dégradation et toutes les choses inimaginables auxquelles on est arrivé en Syrie, ce moment fondateur reste un lien essentiel pour toute une génération qui a participé à ces manifestations, qui a été, comme je le souligne, avec une chaîne de solidarité régionale entre les villes, entre les régions, entre les campagnes et les villes. Et aujourd'hui, on a toute une génération, et aujourd'hui, même s'ils sont éclatés, ils se trouvent à l'intérieur de la Syrie, en Turquie, en Europe, etc., qui ont tous scandé les mêmes slogans, partagé le même rêve, vécu des expériences analogues. Et ce qui est absolument étonnant, c'est que aujourd'hui, je parle aujourd'hui, vendredi 11 mars, ces mêmes manifestations pacifiques, avec les mêmes drapeaux, avec les mêmes revendications de liberté et de démocratie, ont repris depuis qu'il y a une trêve et qu'ils peuvent sortir dans les rues.
Majdaldik, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Alaa Konmani? Est-ce que, en tout cas, vous avez l'impression que cette chaîne de solidarité à travers le pays qui s'est créée en 2011, elle existe toujours aujourd'hui, ou bien le fait que la guerre soit devenue aussi multiple et aussi terrible, avec de nombreux acteurs sur le terrain, fait qu'il y a eu une forme de dissolution de cette solidarité?
Pour ce qui est de la solidarité, je dirais que la solidarité est toujours là, mais qu'elle est sous un autre visage. Au début, la solidarité, c'était d'abord l'organisation de ces manifestations et également d'en assurer la couverture médiatique. C'était comme ça qu'elle s'exprimait. Les services de base étaient disponibles. C'est vrai que les moyens de communication avaient été interrompus, mais enfin, ils pouvaient être rétablis au bout de quelques jours. Le 28-10-2012, en fait, tous les services ont été interrompus et ça a été la journée de la libération de la Ghouta orientale. Et le fait que tous ces services aient pris fin, il y a toute une problématique qui s'est imposée à des militants qui jusque-là n'y avaient jamais réfléchi, c'est-à-dire qu'il fallait faire place et il fallait assurer ces services. Au début, les militants cherchaient simplement à organiser les manifestations, à apporter les premiers secours à tous les blessés. Mais là, d'un seul coup, on s'est retrouvé obligé de fournir du pain, de nous assurer qu'il y aurait du pain, de fournir l'électricité, de l'eau. Mais il faut également dire qu'à ce moment-là, nous avons été confrontés à une offensive de plus en plus violente avec des armes de plus en plus importantes qui étaient utilisées contre nous, avec des tirs de mortier ou de bulles. Donc en fait, on s'est retrouvé dans une situation où la priorité, ce n'était plus d'organiser des manifestations, mais d'apporter les soins de première nécessité et les services de base à la population. Et c'est sur cette base que les communautés régionaux ou locaux ont été instituées, également les comités médicaux. Il y a eu également des bureaux de premier secours et des bureaux qui étaient chargés d'assurer ces services de base. Mais malheureusement, le jour de la libération de Douma, le Croix-Rouge a publié un communiqué qui disait que les bureaux de Douma allaient être fermés. Les volontaires, les bénévoles eux-mêmes avaient besoin d'un encadrement, avaient besoin d'une formation parce qu'ils ne pouvaient pas apporter les premiers secours sans formation. Or, nous savons très bien que les bureaux du Croissant-Rouge ont été fermés sur décision politique.
Donc, même
lorsqu'il s'agissait donc de services médicaux, on savait qu'il y avait des médecins, mais il y avait beaucoup de médecins qui ont dû quitter la ville, quitter le pays, de médecins qui ont été tués. Et donc, il n'y avait pas assez de médecins, alors que il y avait un nombre extraordinaire de blessés tous les jours, qui pouvaient se compter par centaines.
Ils avaient besoin
de secours, ils avaient besoin de soins de santé, les médecins avaient besoin également d'équipements, de produits médicaux.
En fait, la
solidarité à ce moment-là a changé de nature, puisque cette solidarité a commencé à s'exprimer, non pas en termes d'organisation de manifestations de soutien mutuel, mais elle s'est manifestée à travers la prestation de services de base.
Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là aussi que vous décidez de créer une association, de vous occuper des jeunes, des enfants, pour leur apporter à la fois de l'enseignement et puis aussi une aide psychologique, parce qu'évidemment, les enfants sont extrêmement perturbés, voire totalement bouleversés par ce qui se passe dans le pays. Ce réseau de solidarité, est-ce que c'est un réseau avec lequel vous arrivez, vous aujourd'hui, Nathalie Bontemps, à travailler à travers donc cette association qui s'appelle Shams Collectif Syrie? Est-ce que c'est... Évidemment que c'est compliqué, j'imagine, d'apporter de l'aide aux Syriens aujourd'hui. Et comment est-ce que vous travaillez finalement pour mettre en place cette solidarité?
En fait, on a commencé avec un premier groupe d'activistes qui se trouvaient donc sur place et avec qui j'avais beaucoup noué de liens pendant ma période de présence, justement, du début de la révolution jusqu'à novembre. Donc, on leur envoyait des sommes d'argent mensuelles, hein, et c'était distribué à des familles dans des quartiers. Et puis, il y avait une jeune femme qui nous envoyait vraiment des choses très détaillées de comment ça avait été distribué, à qui, la situation des familles déplacées, d'où elles venaient, où elles étaient réfugiées, toujours en Syrie bien sûr. Et puis après, tout le premier groupe d'activistes a dû s'enfuir, donc on est passé à un deuxième qu'on connaissait aussi depuis le moment où on était présente, parce que j'étais avec deux amies qui étaient présentes en Syrie. Et puis c'est comme ça, en fait. Ensuite, il y a aussi des gens qui sont arrivés en France et que j'ai rencontrés en France, mais par le biais d'autres personnes que je connaissais depuis la Syrie, qui étaient maintenant en France. Et ainsi, donc on arrive toujours à maintenir un lien avec des personnes présentes là-bas, même si ça change en fonction de ce qui arrive aux uns et aux autres.
Alors il y a cette solidarité internationale à la Kodmani, qui était aussi au début de la révolution syrienne, qui a un soutien diplomatique fort, même s'il n'y avait pas eu d'aide directe, en tout cas d'aide militaire directe. À quel moment les Syriens finissent par comprendre que ce qu'ils espéraient et que leur révolution, ils vont devoir en tout cas la gérer tout seuls, et qu'en tout cas il ne faut pas attendre peut-être d'aide de l'extérieur?
Oui, c'est-à-dire, il faut rappeler que les Syriens ont été un petit peu encouragés par plein toute une rhétorique internationale qui est un peu croyant que la Syrie, ça allait être la même chose que la Tunisie ou l'Égypte. Bon, on a des déclarations de très grands responsables américains, français, européens, etc., qui commencent à dire oui, ce régime doit tomber, il faut que Assad s'en aille. Donc il est certain qu'à ce moment-là, les Syriens ont cru qu'il allait y avoir un vrai soutien de la communauté internationale, ou du moins d'une partie de ceux qui étaient en train de leur dire « Allez-y, c'est formidable ce que vous faites et on va... » Bon, et puis, ça n'a pas suivi. Tout d'un coup, il y a eu un sentiment d'abandon qui s'est installé, d'abord de doute, puis d'abandon, qui a commencé, je crois, la période où on peut se dire ça, c'est en fin 2011, quand il y a eu une sorte de médiation, déjà une délégation de la Ligue arabe avec des observateurs qui sont venus voir que il y avait pas d'hostilité, que le régime ne tirait pas sur... Et là, tout d'un coup, on a vu que tout était pipé, tout le monde trahissait sa parole, que même l'ONU a commencé à faire n'importe quoi, j'allais dire, à mentir, que le régime qui jouait la comédie, on s'est mis à le croire, et ça commençait à se brouiller à ce moment-là. Tout le monde n'a pas désespéré, mais c'est sûr qu'au fur et à mesure que ce sentiment que finalement le monde n'était pas engagé avec cette revendication syrienne, des jeunes syriens, ou plus que des jeunes, pour la démocratie et la liberté, bon, il est certain que ça a grandement contribué aussi à la radicalisation du mouvement, à la prise des armes, et dans un deuxième temps, à l'islamisation.
Ce sentiment d'abandon, est-ce que vous l'avez ressenti, Majdaldik? Est-ce que vous le ressentez encore aujourd'hui, 5 ans après le début de la révolution syrienne? Allez, on termine la traduction.
Oui, il faut reconnaître la vérité. Il y a aujourd'hui un membre au sein du Conseil de sécurité qui, en dépit de tous les rapports qui ont été publiés condamnant le régime syrien, en dépit de tous les rapports établissant les faits, et qui aujourd'hui, il y a ce membre donc qui persiste dans sa position 5 ans après les faits.
C'est la Russie.
Oui, tout à fait. Il faut donc reconnaître qu'il y a un membre du Conseil de sécurité qui soutient ce régime. Et pour ce qui est de la réaction américaine, l'assassinat, pour lui, ça ne rentre pas tout à fait dans sa lecture de la situation. Nous savons très bien que le meurtre ne devrait jamais être autorisé.
لما بيتصنف القتل انه بس الكيماوي هو خط احمر
mais lorsqu'on dit que le meurtre ce n'est pas grave tant qu'il n'est pas causé par des armes chimiques et que c'est l'utilisation des armes chimiques qui est la ligne rouge
وبتكون ردة فعل العالم انه هي بس احبسي
et que la réaction de la communauté internationale c'est de dire ah il faut absolument ôter tout arsenal d'armes chimiques
رغم كل التهديد اللي صار
التهديد
الكلامي اللي صار بالنسبة
للنظام et ce en dépit de toutes les mises en garde qui avaient été avancées en dépit des lignes rouges qui avaient été présentées et que rien ne suit
ولكن طلع آخر شيء ما في نتائج يعني
يبدو après toutes ces mises en garde après toutes ces lignes rouges finalement rien n'a suivi et on n'a pas protégé on n'a pas protégé le peuple mais si vous voulez vraiment protéger le peuple protéger les gens eh bien il faut d'abord commencer par leur donner la liberté du choix les droits de l'homme ne peuvent pas être appliqués de manière sélective dans une région et pas dans d'autres parce que notre humanité elle n'est pas morcelable
Majal dit que depuis 15 jours en Syrie il y a un cessez-le-feu qui est à peu près respecté, qui ne concerne pas les organisations djihadistes, mais qui par ailleurs est à peu près respecté. Il y a des négociations qui vont reprendre lundi à Genève, des négociations qui sont menées par l'ONU pour essayer d'aller vers un processus politique avec des élections avant 18 mois, élections législatives, élections présidentielles. Est-ce que ça, pour vous, c'est source d'espoir, d'encouragement, ou bien est-ce que c'est quelque chose auquel vous ne croyez pas ?
هلا لما بيتحول حق الناس بالحياة وحقها بالكلام بالمعابر الإنسانية هذا حق يحفظ.
Il faut absolument garantir le droit à la vie, le droit également au corridor humanitaire. Ça, c'est un droit qui doit être absolument être préservé.
لما بيتحول لوسيلة ضغط سياسي.
Mais lorsque ça devient une carte qui est utilisée pour faire pression sur le plan politique.
Et
puis, il faut bien dire également qu'il ne s'agit pas ici simplement de se débarrasser de Bachar al-Assad. Parce qu'il fait partie. Il fait partie de tout un système. C'est un système qui a choisi d'avoir recours à l'arme chimique. Il faut leur demander des comptes.
Donc, il faut appliquer les lois.
Il faut appliquer les lois et il faut éviter qu'il y ait une déformation des lois ou un détournement des lois qui ne puisse pas assurer le respect total des droits de l'homme. Nous voulons simplement que la loi soit appliquée.
Et donc la loi
impose donc que l'on traduise en justice ou que l'on demande des comptes aux assassins. Et là, je crois que tout le monde éprouvera un grand sentiment de satisfaction ou de paix.
Alors on est déjà quasiment au terme de cette émission, on aurait souhaité poursuivre cette discussion, mais vous savez, à l'occasion de cette journée spéciale Syrie, la guerre qui change le monde, hein, au cours de laquelle on a beaucoup parlé justement de la situation des Syriens, et bien Jean-Christophe Ruffin nous propose depuis ce matin sa chronologie personnelle des événements, et je vous propose d'écouter à présent son dixième et dernier, le dernier élément de cette chronologie.
13 novembre 2015. Nous avons cru pouvoir rester hors du conflit syrien et finalement le conflit syrien revient à nous sous la forme des attentats du mois de novembre, orchestrés par des combattants rentrés de Syrie. Cette évolution dramatique achève l'internationalisation de cette guerre. Car l'Europe agressée va répondre. La France et d'autres pays européens se joignent à l'Amérique pour bombarder Daesh. Et Russes, de leur côté, prenant acte de la nouvelle posture d'Assad, qui se veut le défenseur de la civilisation face à la barbarie, n'ont plus de scrupules à intervenir à ses côtés. Ils sont entrés dans la guerre le 30 septembre. Ainsi, la guerre en Syrie n'a plus de civils que le nom. C'est une guerre internationale. Contingents iraniens et libanais, opérations aériennes russes, américaines, européennes et turques, financements saoudiens et qataris, le conflit syrien est devenu un théâtre global. Il est d'autant plus dangereux qu'il est traversé de paradoxes. La France combat Daesh, mais sans se rapprocher d'Assad, qui prétend cependant lutter contre le même ennemi. Les monarchies du Golfe ont des liens étroits avec les mouvements islamistes qui sèment la terreur chez leurs alliés français. Les Iraniens, meilleur soutien d'Assad, l'infréquentable, sont reçus, eux, en grande pompe en Europe et aux États-Unis, etc., etc. Ces incohérences confinent presque à la farce. Restent deux évidences qui, elles, ne font pas rire. D'une part, Assad est en passe de gagner cette guerre. D'autre part, à tout moment, Les puissances qui tournoient autour du charnier syrien peuvent entrer en collision. La Russie et la Turquie sont passées tout près de la confrontation directe à l'occasion de la destruction d'avions de chasse par des missiles. L'Iran et l'Arabie saoudite peuvent cesser un jour de s'affronter par alliés régionaux interposés et choisir de régler leurs comptes directement. Surtout, la Russie, face à une Amérique que dirigerait un Donald Trump, peut trouver un jour devant elle une superpuissance décidée à ne plus se laisser humilier. Ceux qui prédisent une nouvelle guerre mondiale en Syrie ont tort, bien entendu, jusqu'au jour où ils pourraient avoir raison. L'allumette, craquée 5 ans plus tôt par Mohamed Bouazizi, aurait alors enflammé son dernier brasier.
Voilà, c'était le dernier élément de la chronologie personnelle de Jean-Christophe Ruffin que vous pouvez retrouver sur franceculture.fr. Un grand merci à Majdal Dik et à Nathalie Bontemps, les auteurs de « À l'Est de Damas, au bout du monde, témoignage d'un révolutionnaire syrien ». C'est publié aux éditions Don Quichotte. Vous y racontez tout votre vécu et celui de vos proches, notamment les conditions dans lesquelles vous avez été détenu et torturé. Voilà, c'est donc à lire aux éditions Don Quichotte. Un grand merci également à Asma qui a assuré l'interprétation de vos propos, ainsi qu'à Ala Kodmani qui a coordonné ce Libé spécial aujourd'hui, le quotidien des Syriens qui revient voilà sur ces 5 années de guerre avec tout un tas d'articles et de contributions venues notamment de Syrie. Merci beaucoup à tous. On se retrouve lundi à 18h20 pour du Grain à Moudre.